Donc bonjour, aujourd'hui nos différents intervenants nous ont expliqué qu'il y avait un glissement du centre de gravité de la bibliothèque vers le public, selon une expression que j'ai retenue assez poétique, un passage de la collection à la connexion, connexion entre l'usager et le document, mais aussi connexion entre les usagers entre eux. Pour que la bibliothèque réussisse sa mission, c'est-à-dire répondre aux besoins informationnels d'une collectivité, tous nous ont dit qu'il fallait travailler sur la médiation. Et la question qui se pose à nous donc, est donc comment faire se rencontrer le lecteur et les documents. Les réponses sont très nombreuses, tant pour ce qui concerne les documents physiques que pour les documents numériques. Et comme l'a rappelé Bertrand Calange, la question se pose avec encore plus d'acuité pour faire se rencontrer le public et les documents numériques. Les quelques expériences que vont nous présenter nos invités à cette table ronde ont en commun de permettre ce mixage des expériences et le mixage du savoir entre les documents et les usagers, voire les usagers aussi entre eux. Donc je laisse tout de suite la parole à Sylvie Tomolillo, qui travaille à la Bibliothèque municipale de Lyon et qui va nous parler du point G. C'est un exemple de constitution d'une collection physique et virtuelle.
Bonjour. Donc je remercie la BPI pour cette invitation. Alors le point G en fait c'est un centre de ressources et ça ne consiste pas seulement en des collections, mais là aujourd'hui précisément je vais aborder les collections. Il aurait peut-être fallu rappeler la genèse du centre de ressources, mais ce serait trop long. En tous les cas, avant de venir aux collections proprement dites, je vais commencer par rappeler rapidement la manière dont nous avons défini notre objet pour comprendre les contours que nous avons donnés à ces collections en rapport avec le public. Donc à la base, le projet était celui d'un centre de ressources documentaires sur la mémoire gay et lesbienne. Donc nous avions un sujet et un angle d'approche relativement restreint, l'homosexualité et la mémoire. Nous avons souhaité rendre notre démarche à la fois plus transversale et plus dynamique, et c'est le prisme du genre qui permettait cela. Dans la mesure où le genre régule certes les rapports hommes-femmes, mais aussi les rapports entre hommes, les rapports entre femmes, toutes les situations de transition, d'effacement ou de mélange du féminin et du masculin. Et cette perspective permet donc de saisir que les contours identitaires, homo, hétéro, femmes, hommes, se définissent dans l'interaction sociale et ne délimitent pas des entités incommensurables au statut immuable. Pour autant, il ne s'agissait pas de perdre de vue notre objectif premier, à savoir, pour reprendre les mots de Patrick Bazin, de donner une visibilité historique à tout un continent d'existence et de comportement. Donc en l'occurrence, existence LGBT, lesbienne, gay, bi-trans, auquel bien sûr on pourrait ajouter intersexe, et aussi tout un tas de modes d'existence, je dirais, au seuil du reconnaissable et qui résistent passivement ou activement à la mise en catégorisation. En tous les cas, des existences historiquement singularisées par la médecine, réprimées par la loi et effacées de l'histoire avec un grand H. L'enjeu à mes yeux, en termes de collection, tant en termes de collection que dans le rapport au public, n'était pas simplement l'inclusion, mais une sorte d'altération positive, opérée à la fois par le décentrement du regard dans l'approche intellectuelle, l'approche thématique, et par une médiation intra-publique, une médiation au sein du public dans son ensemble, grâce à des questionnements communs. Ceux des normes de féminité et de masculinité, de la famille, des usages du corps, des dimensions érotiques de la vie sociale, etc. L'altération au sens positif suppose à la fois la reconnaissance de l'altérité et des dispositions cognitives universelles. Dispositions cognitives à devenir autres, à acquérir de nouvelles sensibilités au monde et de nouvelles appréhensions intellectuelles de ce monde, à réinterpréter le soi et le non-soi. Donc, là, on est plus du côté de l'universel anthropologique que de l'universalisme républicain. Altérité et universel anthropologique, donc, que l'on retrouve dans une certaine mesure dans la relation entre visibilité et transversalité qui régit nos relations, nos collections physiques et virtuelles. Donc là, je vais en venir à des aspects plus descriptifs. La partie émergée du centre de ressources, celle immédiatement appréhensible, visible, et celle du fonds contemporain qui est constituée d'acquisitions ciblées d'ouvrages des 15 ou 20 dernières années en sciences humaines et sociales et aussi en critique artistique et littéraire. Nous l'avons donc appelé le fonds genre et sexualité et il est localisé en salle de lecture civilisation. Alors on a fait le choix de cette salle de lecture plutôt que celui du département société pour plusieurs raisons. En société, cela aurait sans doute contribué à réduire les questions LGBT à des sujets d'actualité médiatique, avec le potentiel sensationnalisme que cela suppose. D'autre part, nous souhaitions encourager un certain recul et permettre une ouverture vers d'autres cultures et d'autres périodes historiques, ne pas céder à l'évidence identitaire ambiante. Donc à l'heure actuelle, le fonds genre et sexualité comprend environ 1500 documents, dont environ 600 en salle, les autres aussi le moderne, et son accroissement est constant. Ce fonds possède sa propre cotation pour deux raisons. La première est que, s'agissant d'un fonds pluridisciplinaire au sein d'une bibliothèque départementalisée, la classification du web prêterait à confusion quant à la localisation des ouvrages. Mais plus fondamentalement, les intérêts proposés ne correspondent pas toujours à la logique d'un fonds spécialisé. Par exemple, lorsque la classification du Way voit la transsexualité comme une orientation sexuelle et non comme une catégorie de genre. Et concrètement, cet ancrage visible en salle de lecture a aménagé un espace sécurisant, mais ouvert, sans isolement. Ce qui se vérifie notamment par le fait que des personnes transgenres ou bien des couples de femmes ou des couples d'hommes qui fréquentent les lieux se sentent moins contraints à une extrême discrétion. De manière un peu paradoxale, on pourrait dire que la bibliothèque municipale ne se soucie guère de l'orientation sexuelle de ses lecteurs. En revanche, elle s'efforce d'être un lieu vivant et accueillant pour tous, et ce non dans l'abstraction, mais en tenant compte des réalités sociales. Là, je vais en venir à ce dont a parlé Bertrand tout à l'heure, quand il disait comment on va pouvoir faire advenir quelque chose j'arrive pas à reformuler ce qu'il a dit, mais on va en venir pas tant donc à la collection physique en salle de lecture, mais à cette collection virtuelle. Et le plus gros du travail, c'est l'inventaire des différentes collections de la bibliothèque afin de créer cette grande collection thématique qui sera interrogeable via notre catalogue informatisé, comme le sont le fonds chinois, l'artothèque ou le fonds jésuite, par exemple. Donc on est là toujours dans le pluridisciplinaire, mais avec une dimension de transversalité au sein même de nos collections. Lorsque nous avons envisagé... Patrick Bazin, vous pouvez m'interrompre si vous le jugez nécessaire. Lorsqu'on a envisagé les différentes possibilités qui s'offraient à nous afin de valoriser les pièces pertinentes parmi nos 3 millions de documents, y compris dans les fonds anciens, nous avons dès le départ écarté deux options. La première aurait consisté à repérer les ouvrages à l'aide d'une pastille de couleurs, mais nous avons jugé délicate, d'un point de vue symbolique. En effet, comment ne pas penser au stigmate du triangle rose. La seconde supposait de rassembler physiquement tous les ouvrages en un seul et même fonds localisé, mais outre l'ampleur de la tâche, cette perspective soulevait des questions philosophiques plus complexes, puisque d'un point de vue intellectuel, les documents en question avaient tout autant vocation à être intégrés à des collections par discipline que dans un ensemble thématique pluridisciplinaire. Et d'autre part, nous souhaitions aussi que chacun puisse découvrir ses ouvrages au gré de ses flâneries dans les différents secteurs de la bibliothèque, par hasard. Donc nous avons opté pour une collection virtuelle constituée en entrant un repère dans la zone 686 des notices bibliographiques concernées, suivant en cela les indications de Bertrand Callange. Et donc cette collection aura notamment l'avantage de montrer la dissémination des questions de genre et de sexualité. En fait, on joue sur tous les tableaux. D'une part, la visibilité avec le fond genre et sexualité ancré localement, physique, et d'autre part, la transversalité avec le fil d'Ariane parcourant virtuellement toute la bibliothèque. Ce fil d'Ariane permet de ne pas isoler symboliquement les questions LGBT du reste des questions intellectuelles ou sociétales. Alors, le domaine des fictions est plus complexe. Et pour l'instant, hormis des bibliographies jeunesse, on l'a peu exploité. Il ne s'agit pas, bien sûr, enfin je dis bien sûr, mais peut-être que mon avis n'est pas partagé, il ne s'agit pas de parler de littérature homosexuelle, bien que cette veine marketing soit en train de se développer, mais de travailler sur le contenu et de le valoriser. Alors bien sûr, certaines œuvres littéraires accordent une place importante à l'homosexualité ou au genre, masculin-féminin, celles de Genet, Proust, Ursenar par exemple. D'autres auteurs contemporains inscrivent volontairement leur création dans le cadre d'une histoire et d'une sociologie LGBT ou féministe. Et ces œuvres ont alors une valeur à la fois testimoniale et d'innovation. Il ne s'agit pas de les appréhender dans une perspective réductrice qui serait identitaire, voire sexologique, mais les dimensions du genre et de la sexualité s'ajoutent aux autres sans s'y substituer. On peut sans doute dire qu'une lecture globale est une vue de l'esprit et une lecture a priori neutre est toujours socialement conditionnée. Et donc, plus concrètement, dans cette optique, c'est vers un travail sur les vedettes matières qu'il s'agit de s'orienter en enrichissant les notices bibliographiques. Toujours dans le domaine des collections, il revient également au centre de ressources de valoriser certains aspects peut-être moins facilement appréhensibles de prime abord. Pour donner un exemple, nos fonds anciens recèlent des ouvrages de chirurgie ou de médecine légale dont certains datent du XIVe siècle et qui témoignent de l'existence millénaire d'un modèle anatomique unisexe. Tandis que dans le contexte politique de la fin du XIXe siècle, une profusion d'ouvrages révèle l'anxiété suscitée tant par les hermaphrodites que par les femmes émancipées, c'est-à-dire simplement qui portent un pantalon ou qui font du vélo, que par les homosexuels, tous rassemblés sous le vocable de troisième sexe. Et ces fonds anciens nous donnent donc l'opportunité de faire, pour reprendre une formule de Foucault, une généalogie de ce qui pose problème. Une bibliothèque sans fonds patrimoniaux n'aurait peut-être pas défini ses collections thématiques de la même manière. Tout l'intérêt d'une bibliothèque comme la BML, c'est de valoriser les fonds patrimoniaux pour eux-mêmes, mais aussi de les remobiliser à la lumière de questionnements contemporains, de les éclairer sous de nouveaux angles, avec évidemment toute la rigueur qui s'impose et sans surinterprétation idéologique. Je parlais tout à l'heure d'altération, et altération n'égale pas falsification. Mais aussi de comprendre les mutations ou questionnements sociétaux contemporains à la lumière d'un ancrage culturel beaucoup plus ancien. Et c'est par exemple ce que font de manière exemplaire mes collègues Anne Charmasson et Fanny Giraudier du département Civilisation, puisqu'elles ont mis au point une heure de la découverte passionnante intitulée 14-18 Troubles dans le genre, qui utilise des documents du fond de la Grande Guerre. Alors je ne peux pas expliquer plus avant, ça prendrait trop de temps, mais c'est vraiment une démonstration de la manière dont on peut interroger à la fois de manière contemporaine des fonds patrimoniaux et aussi la manière d'éclairer à partir de là nos questions contemporaines. Encore deux mots sur l'action culturelle et la valorisation avant de conclure. Nos conférences peuvent être très ciblées sur des thématiques LGBT avec des auteurs comme Martine Gross ou encore Louis-Georges Tin. Elles peuvent aussi inviter à une réflexion plus globale avec par exemple des interventions d'Alain Corbin, de Michel Bozon ou d'Elsa Dorlin. Mais là encore, il n'y a pas de clivage entre le singulier et l'universel. Par exemple, je donne souvent cet exemple parce que sans doute que c'est la première fois que j'ai comme mis au point cette tactique peut-être. ou en tous les cas activer quelque chose qui était déjà dans la philosophie de notre démarche, mais dans la communication en tous les cas. À l'occasion d'une conférence sur l'homoparentalité, j'avais volontairement introduit la réflexion en faisant le lien avec la question plus générale de la différence entre parenté biologique et parenté sociale, ou plus précisément du hiatus entre reproduction et filiation, qui touche absolument tous les parents, adoptifs ou non, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il se trouve qu'en plus, ça tombait au moment de la polémique sur les tests ADN pour contrôler le regroupement familial des immigrés. On voit donc bien comment, partant de la question de droit dit spécifique, on soulève des questions bien plus fondamentales, inscrites au cœur de notre culture. Dans notre expérience, la lutte contre les inégalités et les exclusions consiste donc en une double démarche de visibilité et intégrative, visibilité qui donne de la légitimité et des repères d'identification, sans compter qu'en donnant la parole à celles et ceux qui ne sont habituellement qu'objet de discours, on renouvelle le champ de la connaissance et de la culture. Et démarche intégrative dans le sens d'intéresser et d'impliquer le grand public, pas juste en termes de tolérance et de bienveillance, mais en révélant la dynamique et les ressorts universels des questions de genre et de sexualité. Ça pourrait être le cas avec d'autres thématiques. Enfin, pour revenir aux collections, je terminerai sur le constat de leur plasticité, révélée par l'approche thématique. On peut même croiser différentes approches thématiques, comme je suis en train de le faire avec le fonds chinois. Plasticité et pluralisation d'un même corpus. Décentrement et multiplicité qui ne reposent non pas sur une logique d'intelligibilité concurrentielle, mais mobilise les dispositions cognitives universelles à devenir autres, loin de tout essentialisme ou naturalisme identitaire.
Merci. Je vous propose de garder vos questions à Sylvie Tomolillo pour la fin. On va écouter les trois intervenants. Donc je passe sans plus attendre la parole à Louis Jauberti, qui est chef de projet coordination pour l'organisation et la valorisation des contenus de Gallica, et qui donc va nous parler de la médiation numérique des contenus de Gallica.
Bonjour, évidemment merci de m'avoir invité. Alors depuis, j'ai réussi à faire raccourcir l'intitulé, c'est donc chef de projet médiation numérique. Donc on est en plein dans le sujet. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on fait en termes de médiation numérique autour de Gallica. D'abord, il faut évidemment rappeler qu'on s'inscrit dans un écosystème, le web. La première chose dans cet écosystème, c'est que l'interaction, c'est la norme. La deuxième, c'est qu'on doit organiser les accès à l'information en s'adaptant aux besoins et aux usages des publics. Je vous ai mis une citation d'un usager qui a été interrogé lors de la dernière grande enquête qu'on a menée sur les usages de Gallica en 2011. Il faudrait pouvoir aider les nouveaux utilisateurs, comme les bibliothécaires peuvent guider pour une recherche dans une bibliothèque physique. Et la troisième chose, c'est évidemment qu'il faut inventer de nouvelles relations avec les usagers. Eh oui. Alors, la première chose, qui est la chose la plus traditionnelle, c'est évidemment organiser l'accès. Je vais passer assez vite sur ce qu'on fait sur le site web actuel, puisque je vous en reparlerai à la fin de la présentation, et qu'on va pas mal changer les choses dans les prochains mois. Cette logique, c'est ce que Lionel Morel a appelé dans plusieurs présentations la stratégie du restaurant, en fait. Le site web de la bibliothèque propose des ressources aux usagers qui sont préparées à l'avance, qui sont portées à sa connaissance sur le site même par le biais de menus. Mais dans cette logique-là, évidemment, c'est à l'usager d'aller vers le site web de la bibliothèque. Donc la grosse limite, c'est que l'usager, il doit connaître l'existence de ce site web pour l'atteindre. Alors évidemment, c'est ce qu'on a fait avec Gallica. Concernant la page d'accueil, on a une page d'accueil actuellement qui est extrêmement riche, mais qui est très complexe, où on met peu de choses en avant, à part un ensemble de documents qui changent régulièrement. En ce moment, c'est Apollinaire. Le moteur de recherche qui est extrêmement mis en valeur. Et après, on a de très, 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 trop nombreux onglets et des fonctions sociales qui sont très peu mises en avant. Toujours dans cette logique de l'offre, on propose des interfaces de consultation qui qui sont nombreuses, avec de très nombreuses fonctionnalités, mais qui, du coup, sont difficilement appréhensibles par l'usager. Alors, on en a trois en termes de consultation. Le mode standard, le mode feuilletage plein écran et le mode zoom généralisé. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ce qu'on commence à faire maintenant, ce sont des nouvelles pages de valorisation. On peut les appeler pages de valorisation, pages de médiation numérique. Le but de ces pages, en tout cas, c'est de permettre de retrouver du contenu qui est difficilement accessible via le moteur de recherche. Et ce sont des pages qui intègrent à la fois des collections BNF et des collections partenaires. Actuellement, on est en phase de test élargi. Pourquoi une phase de test élargi ? Puisque la première étape, c'est l'appropriation des modules de création de ces pages par une bonne partie des équipes de l'établissement, en l'occurrence les personnes qui sont chargées des collections. On a donc 20 projets en cours et une petite dizaine devrait être mise en ligne au cours du premier semestre 2014. Je dis bien des pages de valorisation, mais ce sont des pages de structuration, en fait, plus que de valorisation. Vous le verrez, on a très peu d'éditorialisation classique, à savoir beaucoup de textes, des dossiers, ce qu'on savait faire vraiment avant. Là, l'idée, et je le répète, c'est de donner accès avant toute chose au contenu. Donc on est dans des pages de structuration d'accès, pas dans des pages d'exposition virtuelle, et ce sont des pages qui sont amenées à évoluer en permanence au moyen d'un outil de gestion de contenu, on a choisi Drupal, mais surtout d'un principe fort, qui est un circuit de validation extrêmement court. On n'a pas de validation, en fait, le producteur de contenu crée lui-même le contenu, évidemment, mais l'intègre dans l'outil et le met en ligne directement, sans validation. Il appuie sur le bouton mise en ligne, dans les 2 minutes, la page est visible dans Gallica. Alors, je vous ai mis 3 exemples qui sont déjà en ligne. La page principe au quotidien, des documents qui sont très utilisés, mais qui sont très difficiles à trouver via une recherche simple dans le moteur de recherche Gallica, le Figaro, l'Ouest Éclair, etc. C'est dès à présent l'une des 10 pages les plus consultées sur Gallica. La page enregistrement sonore, qui permet de valoriser des collections qui sont peu connues des publics qui fréquentent Gallica, donc les collections sonores, et qui, pareil, sont amenées à se développer. Et enfin, je vous ai mis un exemple, c'est la dernière page qui est arrivée en ligne, la page Société Savante, qui met en valeur des documents partenaires, des documents qui sont extrêmement, extrêmement difficiles à retrouver via le moteur de recherche. Ça, c'est évidemment en place depuis 2009, ce qu'on appelle la lettre d'information. Donc c'est une newsletter Gallica, c'est un produit et un dispositif de valorisation 1.0, mais qui nous permet de toucher 50 000 abonnés quand même. Donc on informe des dernières mises en ligne dans Gallica, on met en valeur des documents en rapport avec l'actualité, et on met en valeur, depuis la refonte de cette lettre, les réutilisations de documents de Gallica. Alors là, ça, la capture d'écran ne le montre pas, mais on a une rubrique qui s'appelle « Dans l'œil de Gallica », qui met en valeur ce qu'on appelle un Gallica Note, à savoir un internaute qui fréquente et qui réutilise les documents de Gallica. Sur la lettre du mois de janvier, on a mis en valeur un blogueur qui s'appelle Bluzuga Memphis. Il a fait un billet suite à cette mise en valeur pour nous indiquer que la fréquentation de son blog avait quadruplé. Voilà, donc on a quand même un pouvoir de recommandation qui est assez fort. Alors le blog, qui est un dispositif à moyen terme, à mi-chemin en fait, entre l'organisation de l'accès et la dissémination, ce qu'on va voir après. Donc c'est un dispositif toujours pour mettre en valeur les contenus de Gallica, pour informer des évolutions de l'interface et pour informer d'usages particuliers de collections de Gallica. On vient de rajouter hier matin, un dernier dispositif qui est une réponse extrêmement rapide à l'usager. On a eu une question qui nous a été posée via Twitter sur comment fait-on pour retrouver les collections de tel département de la Bibliothèque nationale dans Gallica. Mais en fait, au lieu de répondre, on a répondu directement à cette personne, mais on en a profité aussi pour donner cette réponse à l'ensemble de la communauté via un billet de blog, qui est le dernier billet de blog paru. La chose qui a été mise en place à partir de 2010, c'est la dissémination de l'accès. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit ce matin, notamment par Olivier Herschert. On est vraiment en plein dedans. L'idée, c'est d'occuper des emplacements au sein des espaces les plus fréquentés par le public sur le web, en l'occurrence les médias sociaux, de disséminer sur ces emplacements des appâts documentaires au sein des flux, et de s'assurer que l'usager pourra suivre la ligne pour revenir sur le site web. Donc on s'aventure hors les murs, et on va à la rencontre de l'usager dans ses univers personnels d'information. Donc la première chose, c'est évidemment d'être là où le public passe. Donc on est présent via le blog, on est aussi présent sur Facebook, sur Twitter depuis 2010 pour les deux, et plus récemment sur un réseau social qui s'appelle Pinterest, dont je pourrais vous reparler si ça vous intéresse, depuis 2012. Le premier axe stratégique, c'est évidemment de pousser les contenus sur ces réseaux. Le choix qui a été fait, c'est de mettre en avant Gallica en tant que service, sans révéler l'identité des acteurs qui animent sa présence sur les réseaux sociaux. Je fais partie de l'équipe, évidemment, je ne tweete pas en mon nom propre ou je ne mets pas des contenus en mon nom propre sur Facebook. Et cette adoption d'une identité de service, elle a été pensée dans la perspective d'une proximité, voire d'une connivence avec les internautes, afin de faire émerger avec et autour de Gallica une ou des communautés de GallicaNotes. Si on prend les choses autrement, on peut dire que le service que rend Gallica, en termes de mise à disposition de contenu numérisé et de fonctionnalités offertes, il est mis en avant sur Facebook, Twitter et Pinterest, mais pas de manière désincarnée. Gallica sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, c'est en fait une persona qui a sa voix, sa personnalité, son humour propre, et on est 6 hein, derrière. Donc autant d'éléments qui sont construits en fait progressivement depuis l'ouverture de la page Facebook et du fil Twitter en 2010. Et cette construction, les usagers y ont participé, les usagers qu'on a réussi à fédérer autour de la présence de Gallica sur les réseaux sociaux. L'un des fils rouges, c'est donc la mise en valeur de documents numérisés sur les réseaux sociaux, des contenus qu'on cherche à y promouvoir. On met en avant aussi bien des trésors du patrimoine que des documents insolites. Je vais vous donner un exemple sur la semaine du 6 au 10 janvier 2014, qui nous a permis de proposer sur Facebook un album autour des vœux de la nouvelle année, ce que vous avez en ligne, et un album pour les 500 ans d'Anne de Bretagne. On a signalé ces albums sur Twitter, et on a aussi réagi à l'actualité avec un tweet sur les soldes. Et enfin, on va en reparler tout à l'heure, on a alimenté ce qu'on appelle un tableau Pinterest autour des trouvailles de GallicaNotes, donc des documents de Gallica qui ont été réutilisés sur le web. Cette présence sur les réseaux sociaux, elle nous sert aussi à informer des évolutions des services. Je vous parlais des pages d'enregistrement sonore tout à l'heure. On communique dessus via un billet de blog qui est lui-même retweeté et repartagé sur Facebook. Ce que je ne vous ai pas mis là, mais il a aussi été repartagé sur Facebook. L'objectif, c'est aussi de répondre aux usages mobiles, toujours en termes de dissémination. Ont été développés des applications pour tablettes et smartphones, version 2 depuis mars 2013 pour les produits Apple, et depuis tout récemment pour les tablettes Android, on a sorti la nouvelle version il y a moins d'une semaine. On informe des évolutions des fonctionnalités, et là on est passé à une étape supérieure, je vous parlais justement de l'application Android. En fait, ce qu'on a fait pour Android, on a fait du teasing en proposant à nos followers sur Twitter et à nos fans sur Facebook de tester l'application en avant-première avant qu'elle ne soit mise à disposition sur le Google Play Store, ce qui nous a aussi permis d'avoir un retour très intéressant d'une partie des personnes à qui on l'a envoyé. On a quand même eu 50 demandes pour avoir l'application en avant-première et on a eu une trentaine de retours par mail, ce qui est extrêmement positif et qui nous a permis d'effectuer des correctifs avant même qu'on mette l'application en ligne la semaine suivante. On n'a pas pu tout intégrer, mais dans une prochaine version, on aura aussi des correctifs qui nous ont été demandés par un certain nombre d'usagers. Suite à ça, on a évidemment sorti un billet sur le blog au moment où l'application a été disponible dans le Play Store, et le billet de blog, il a été partagé sur Facebook et il a été retweeté. L'un des autres axes forts de cette présence sur les réseaux sociaux, c'est évidemment d'interagir avec les internautes. On s'efforce de répondre à toutes les questions des internautes concernant la bibliothèque numérique, y compris quand elles ne nous sont pas directement adressées. Là, c'est un exemple qui remonte à septembre, où on nous dit que l'application Gallica pour iPad ne fonctionne plus sur iOS 7. Donc on lui a répondu quasi immédiatement, d'abord en lui disant que de patienter un petit peu, ce qui ne se voit pas là, et ensuite on lui a dit ça y est, qu'elle pouvait télécharger la dernière version qui était compatible avec l'iOS 7. Alors l'interaction, elle ne se joue pas uniquement avec les usagers, elle se joue aussi avec les autres institutions culturelles présentes sur le web. L'exemple ici, donc avec une autre bibliothèque, la BNUS à Strasbourg, où on signale les affiches de la BNUS qui certes sont en Gallica. mais aussi avec des institutions culturelles qui ne sont pas des bibliothèques. Pour la Journée internationale des archives, on a fait un album commun avec d'autres institutions culturelles sur Facebook. Un dispositif d'interaction très fort avec les usagers, qui est un gimmick qui revient tous les vendredis, c'est ce qu'on appelle l'énigme du vendredi, qui a pris des formes au fil du temps de plus en plus élaborées. Je vous en ai mis un exemple ici. Le principe de base, tous les vendredis, on donne rendez-vous à la communauté qui nous suit sur Facebook ou sur Twitter pour répondre à une énigme. Au départ, c'était de retrouver les documents qu'on proposait dans Gallica. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas le lien vers le document dans Gallica, on leur demandait de le retrouver. Ça a pris des formes de plus en plus élaborées au fil du temps, où on s'est appuyé sur, pour le coup, de la culture extrêmement populaire. On a fait des triviales poursuites, on a fait des petits bacs, ce genre de choses-là. Donc ça a pris des formes de plus en plus élaborées. Sur Twitter, on emploie un dispositif qui s'appelle la chasse au trésor. À chaque mise en ligne de Gallica, nouvelle mise en ligne dans Gallica, en général c'est toutes les semaines. Là, il ne va pas y en avoir pendant un certain temps, puisqu'on a terminé le marché de numérisation et le nouveau va commencer très prochainement. On signale les derniers documents mis en ligne via un hashtag spécifique sur Twitter qui s'appelle le hashtag chasse au trésor, et on propose justement aux Gallicanautes de nous signaler les trésors qu'ils ont trouvés dans cette liste. Alors, faire de l'usager un ambassadeur, c'est ce que Lionel Morel avait appelé la stratégie de la motte, c'est un petit peu le but ultime de Gallica. L'idée, c'est de permettre à l'usager de venir essayer les contenus sur le site, de les laisser repartir avec ce qui leur plaît, et des contenus qui, évidemment, portent la marque de Gallica et des liens qui leur permettent d'attirer de nouveaux usagers. Donc l'usager, en fait, devient lui-même un médiateur et un agent de dissémination. La première chose pour ça, pour le faire, c'est mettre à disposition des outils de partage. Donc c'est ce que vous voyez à chaque fois que vous allez visualiser un document dans Gallica, en bas de la page web, il y a un bloc qui s'appelle « Partager ». Alors c'est des choses de base comme le permalien, un permalien vers l'ensemble du document ou vers la page, et des choses un peu plus avancées comme le lecteur exportable qui vous permet d'encapsuler le visualiseur sur votre blog ou votre site web, voire votre catalogue dans le cas des bibliothèques. Évidemment, pour tout ça, on a un tutoriel sur le blog Gallica. Je ne parle pas des partages sur les réseaux sociaux qui sont mis là. Permettre cette réappropriation par l'usager, je vais vous donner plusieurs exemples de blogs ou de sites qui utilisent les fonctionnalités de Gallica. Des blogs de particuliers, de passionnés sur tout sujet. Top Feriana, c'est sur l'histoire de la BD. Archeo SF, c'est un peu sur tout. Orient en aéroplane aussi, une Gallicanote très active. Blues Oga Memphis, j'en ai parlé. Mais aussi des sites institutionnels, hein, Libération, Slate, Rue 89, qui utilisent des documents de Gallica. Donc là, je vous ai mis des exemples. C'est un billet de blog de Orient en aéroplane, justement. Et l'exemple de Slate, la photo qui est juste là, ou de Rue 89, ça amène des pics de trafic hein, sur Gallica lors de la publication d'une photo qui est somme toute extrêmement anodine dans l'article de Slate. Ça a amené 17 000 visites en plus sur la journée. On valorise aussi les trouvailles des Gallicanautes, alors via plusieurs biais. Comme je vous l'ai dit, on est parti d'un constat. On avait des Gallicanautes qui sont parfois des blogueurs très actifs et qui utilisent les documents de Gallica pour illustrer leurs billets. Ça peut être des blogs qui rendent compte de leurs recherches ou des partages sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on fait un repérage, systématique. On n'arrive pas à le faire de manière systématique, mais en tout cas, on fait une veille quotidienne qui nous permet de recueillir chaque jour, en fait, plusieurs exemples remarquables de réutilisation de documents de Gallica. Et on les partage sur le fil Twitter, soit en les retweetant, soit en utilisant un hashtag spécifique, le hashtag GallicaNote, qui commence... Deux minutes, ok. Qui commence déjà... à être repris, comme vous pouvez le voir sur cette capture écran, par les usagers eux-mêmes. Ces trouvailles, on les intègre aussi sur les tableaux sur Pinterest, notamment dans un tableau qui s'appelle « Trouvailles de Gallicanautes », où on va rapatrier tous les documents qui ont été utilisés par les usagers. Et enfin, une mise en valeur encore plus poussée, on va proposer à certains de devenir l'invité de Gallica sur la page Facebook, c'est-à-dire que l'usager lui-même va nous proposer un album. Ce n'est plus le bibliothécaire qui constitue l'album, c'est l'usager, en l'occurrence, ici c'est Discarding Image, qui nous a proposé un album autour d'enluminures insolites. C'est l'album, cet album il a été publié il y a 2 semaines, c'est l'album qui pour l'instant a suscité le plus d'engagement, le plus de retours en termes de commentaires et de likes sur Facebook. Alors, prochainement sur vos écrans, justement, c'est comment on réinvestit toute cette expérience qu'on a acquise de médiation hors les murs, de médiation hors du site Gallica. Alors, la première chose, c'est qu'on s'attache toujours à diversifier la présence en ligne de Gallica. Sur les réseaux sociaux, on est en train de réfléchir à la constitution d'un Tumblr, mais on veut avoir une ligne éditoriale spécifique. Il ne suffit pas de dire la bibliothèque doit être sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. C'est un raisonnement qui est mauvais, à mon avis. Il faut d'abord établir une stratégie éditoriale. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire en ligne ? Comment on le fait ? Et du coup, quels outils sont les plus appropriés ? Et on participe à un projet expérimental de crowdsourcing qui s'appelle la plateforme Correct, dont la plateforme va être mise en ligne normalement en avril. Je ne vais pas développer plus avant, mais je pourrais vous donner des détails si ça vous intéresse. Les documents qui seront proposés, en fait, seront des documents Gallica, dans Correct, pour corriger une correction collaborative de l'OCR. Et enfin, on va refondre le site. Donc ce n'est que le début du chantier, mais chantier qui s'annonce important et passionnant au long de 2014. C'est d'abord une refonte de la page d'accueil. Comme vous l'avez vu, elle est très complexe, très riche, sans doute trop riche. Donc je ne peux pas vous donner les captures écran pour l'instant puisqu'elles sont en cours de validation par la direction générale. Mais on évolue d'une page d'accueil qui met peu en avant les produits éditoriaux produits par la bibliothèque, notamment les pages de valorisation ou de médiation, vers une mise en avant extrêmement importante de ces pages et de ces produits éditoriaux. On a aussi une mise en avant dans un bloc spécifique de la page d'accueil des usagers. Ce que vous avez vu du côté des Gallica Notes qu'on peut avoir comme catégorie sur le blog, qu'on peut avoir dans la lettre d'information, on va l'intégrer au site même et on aura la mise en avant, a priori chaque mois, d'un Gallica Note. Donc c'est un pouvoir de recommandation très fort pour la bibliothèque. On a prévu une évolution des pages de valorisation. Là, l'objectif, c'est une appropriation en interne par les équipes. On fera une enquête d'usage sur ces pages une fois qu'on les aura fait évoluer en 2014. D'abord, c'est une mise en harmonie avec la nouvelle page d'accueil, évidemment. C'est aussi un ajout de nouvelles fonctionnalités, des cartes interactives, des frises chronologiques et une intégration de fonctions sociales. Et on fait évoluer les visualiseurs que beaucoup d'usagers trouvent trop complexes. En fait, on va fusionner tous les visualiseurs en un visualiseur unique. Ça devrait arriver pareil au deuxième semestre 2014. Visualiseur qui intégrera des fonctionnalités de rebond, soit via de l'itération, donc des algorithmes automatiques. Les usagers qui ont consulté ce document ont aussi consulté, soit des choses qui seront faites manuellement par les bibliothécaires qui jugent que tel document peut être mis en rapport avec tel autre. Et enfin, on va multiplier les points d'accès aux pages de valorisation au sein même du site, que ce soit, donc, comme je vous l'ai dit, via la page d'accueil, avec des accès multiples au sein de la page d'accueil, ou via le visualiseur. Alors, en conclusion, ça devrait aller très vite. Je vous ai mis quelques tweets qui nous ont beaucoup plu. Voilà. Découvre un meurtre qui a eu lieu dans sa famille il y a tout juste un siècle. Merci, Gallica. On apprend tous les jours. Il y avait sur le toit des Galeries Lafayette une école d'aviation. Merci, l'appli Gallica. Entendu au dîner du colloque hier, le prochain chat, je l'appellerai Gallica. Et voilà, globalement, je suis devenu accro et mon dealer d'e-books s'appelle Gallica. Donc en fait, si on revient à la question de base de cette journée, qui est l'avenir des collections, en tout cas en ce qui concerne les collections de Gallica, il est plutôt radieux en termes de visibilité. On a une augmentation du trafic du site qui est extrêmement importante. On a dépassé très régulièrement, depuis novembre, les 50 000 visites par jour. Et grâce à cette présence sur les réseaux sociaux et à cette réinjection de l'expérience acquise au sein même du site Gallica, on arrive à multiplier les usages et à démultiplier les usages qui sont faits des collections patrimoniales sans discrimination aucune. Voilà, Facebook, maintenant, ça représente plus de 5% du trafic des sites, sites affluents, donc du trafic qui est amené vers Gallica. Et c'est un usage, on peut le voir avec les statistiques Facebook, qui est un usage qui n'est pas l'usage du public classique de Gallica, à savoir un usage de recherche. C'est absolument pas ça qu'on trouve sur Facebook, même si ça peut l'être aussi. Voilà. Merci.
Dans un autre ordre d'idée, de façon tout à fait complémentaire, Emmanuel Payen, qui est responsable de la coordination de l'action culturelle à la BPI, va nous parler de l'interaction entre l'action culturelle et les collections.
Voilà, donc je vais essayer de répondre à la question initiale, non pas en m'appuyant sur la programmation de la bibliothèque, mais bien en ayant une réflexion sur la manière dont l'éphémère peut construire et produire de la collection, puisque l'action culturelle, ce n'est pas un service nouveau dans les bibliothèques. Il a une histoire, il accompagne le développement des bibliothèques patrimoniales et des bibliothèques de lecture publique. Mais cette activité, elle est ces dernières années réinterrogée, d'une part par le souci des publics, des attentes des publics et de la médiation qui émerge actuellement. En fait, on l'a vu aujourd'hui. Et d'autre part, justement, par cette articulation avec les collections qui est réinterrogée. Alors, je vous propose trois cheminements. D'une part, une présentation de la manière dont l'action culturelle se développe en articulation avec les collections, la manière dont elle puise ses contenus à l'intérieur des collections, la manière dont elle les transforme, et dont elle porte aussi les contenus documentaires qui sont à l'œuvre à l'intérieur des collections de la bibliothèque. D'une part, nous reviendrons sur la manière dont elle sert les collections, en les valorisant, en les complétant, en les diversifiant, en les réinterrogeant, en les analysant, en inscrivant à l'intérieur de la vie de la bibliothèque, en fait, une temporalité différente qui est celle de l'événement qui vient rompre avec la continuité de la collection. Et puis enfin, la manière dont elle se constitue en collection, en inscrivant son activité, ses missions dans le temps, et en se dotant d'outils numériques parfois, pas seulement, qui permettent de contribuer aussi, de reverser cette action culturelle, cette activité dans la bibliothèque, dans les ressources de la bibliothèque, et de contribuer ainsi donc au développement de la bibliothèque. Voilà. Donc tout ça, bien évidemment, étant considéré comme une proposition, bien évidemment, qui s'inscrit à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus large de services proposés au public, comme on en discutera peut-être ensuite à l'intérieur, donc des propositions qui peuvent être faites d'autres types de collections ou d'autres services proposés au public. Alors, c'est bien dans les collections que l'action culturelle puise la légitimité de son action, bien évidemment. Il n'y a pas d'antagonisme, je reprendrai la précaution qu'avait donné Mathilde également. Il n'y a pas d'antagonisme ni d'impossibilité à coexister entre l'action culturelle et les collections, mais bien une mission culturelle qui vient s'associer à s'articuler à une politique documentaire, à une politique de service au public qui est faite par un établissement. Bien évidemment, on est, quand on organise, quand on construit une programmation, dans un souci de valoriser les collections qui, une fois qu'elles ont été acquises, constituées, renouvelées, ont besoin de trouver de nouvelles voies d'accès aux lecteurs ou d'autres voies d'accès aux lecteurs que la présentation au public sur les rayonnages et les actions de valorisation qui s'inscrivent dans les espaces de la bibliothèque. L'activité d'action culturelle, elle se constitue comme un des éléments de ce pulse qui permet d'offrir au lecteur un service qui vient donc prolonger le service d'acquisition, le travail d'acquisition qui est effectué en amont par les bibliothécaires. Et donc elle s'inscrit dans cette continuité-là de la bibliothèque avec ce même souci qu'ont les bibliothécaires de construire une programmation raisonnée, régulière, qui fait écho aux choix qui président à la politique documentaire. Alors, de quelle manière ? D'une part, en inscrivant justement cette activité d'action culturelle à l'intérieur de documents ou de textes programmatiques, comme on a pu le faire à la BPI, comme beaucoup d'établissements le font actuellement, c'est-à-dire en réfléchissant à l'élaboration et à la diffusion d'une charte d'action culturelle qui vient s'articuler à la charte de politique documentaire et qui permet là aussi de définir à la fois les missions de cette activité, ses objectifs et puis ses choix. Parce que lorsqu'on élabore une politique culturelle, bien évidemment, on fait également des choix et on retranche, ce qui n'est pas le plus facile, mais ce qui permet de proposer des axes forts qui vont être lisibles pour le public. Et puis, ça permet également aussi, on s'efforce de construire, comme on le fait dans nos métiers de bibliothécaire, une véritable programmation qui va être régulière, qui va permettre et qui va privilégier le travail à long terme, la prévision sur l'année, la constitution aussi, l'établissement, l'élaboration d'une saison culturelle qui va venir scander et rythmer la vie de la bibliothèque également, et qui va permettre de mieux ancrer les logiques de programmation et les partenariats qui peuvent s'établir avec l'extérieur. Cette programmation aussi, elle doit privilégier la pluridisciplinarité qui est déjà à l'œuvre à l'intérieur de nos collections en proposant au public des manifestations transversales sur, par exemple, de grandes questions de société en ne privilégiant pas une discipline, mais bien en essayant de tenir à l'intérieur d'une programmation plusieurs disciplines et de les faire dialoguer ensemble. Et puis, elle va aussi permettre de proposer au public diverses entrées de découverte en proposant en fait des formes diverses qui permettent de montrer le foisonnement des collections de la bibliothèque et le foisonnement des supports également. D'autre part, bien évidemment, et c'est encore un lien très fort avec la collection, le travail d'élaboration de cette programmation, il se fait bien évidemment dans ce temps d'élaboration, de conception, de réflexion avec les collections de la bibliothèque, puisque les programmateurs, bien évidemment, puisent à l'intérieur des bibliothèques et des ressources de la bibliothèque de quoi élaborer, bien évidemment, leur programme. Cette programmation, elle propose de nouveaux modes d'accès au savoir, aux côtés des d'autres services existants, bien évidemment, puisqu'elle va inscrire à l'intérieur de la bibliothèque des formes innovantes, des formes nouvelles, on va dire, d'appréhension des savoirs, des débats, la prise de parole, des expositions, le regard, des performances, la création, qui visent à dévoiler les contenus et à les faire dialoguer ensemble, et à produire, bien évidemment, de nouveaux sens, à vraiment être dans cette proposition de contenu dont on parle désormais. Donc on s'éloigne à proprement parler du déchiffrage ou de la lecture de textes pour aller vers d'autres modes d'appropriation des connaissances qui sont plus collectifs, l'expérimentation, les masterclass, l'écoute, bien évidemment, le dialogue. Et on va donc essayer d'accompagner ces contenus et de produire du sens en permettant à différentes disciplines, à différents mouvements, à différentes pensées de coexister et de s'interroger les unes les autres. Avec donc la possibilité de traverser l'interdisciplinarité qui constitue le plus souvent nos collections, on est toujours là dans un écho et un reflet des ressources documentaires qui existent à l'intérieur de la bibliothèque. Et puis, avec cette idée qu'on va aller, on va permettre à des disciplines différentes de dialoguer entre elles, à l'image des espaces ouverts dans les constructions de bibliothèques qui permettent à un lecteur d'aller d'une discipline à une autre, d'un livre à un autre, d'une image aussi, enfin d'un support à un autre. Cette idée justement qu'on va être dans cette hybridité que l'on évoquait tout à l'heure. Donc on est bien dans une reformulation et dans un certain sens dans une tentative de création, de recréation, mais aussi de création, puisqu'on retravaille le contenu en se posant la question de son accessibilité, des outils de médiation que l'on peut apporter aux lecteurs, aux spectateurs, pour qu'ils puissent mieux appréhender ces contenus. Et puis on inscrit bien évidemment ce programme dans l'unicité d'un événement qui fait que on rompt un petit peu, on donne un nouveau rythme en fait de présentation à ces contenus. Pour cela, bien évidemment, on va s'interroger sur les formes les plus appropriées en fait, pour véhiculer ces contenus. Et puis, on va ouvrir ces contenus et documentaires à d'autres intervenants, des intervenants extérieurs, de manière à ce que la bibliothèque puisse continuer ce dialogue avec le monde extérieur et puisse ouvrir ses portes à des chercheurs, des artistes, des créateurs, des représentants du monde associatif, qui vont venir donc débattre, enrichir le sens de ces œuvres de l'esprit et donc les actualiser également par leur présence et par leur regard critique. On est donc dans une démarche, je sais que le mot était utilisé dans l'ouvrage de Florence Roche et Frédéric Saby, dans une démarche hypertextuelle où on accompagne ce texte et on l'enrichit. Et puis on permet donc là, en fait, de proposer, on permet donc au lecteur, qui du coup devient multiforme, hein, de lecteur passe à spectateur, auditeur, on ne sait plus très bien quelle est l'identité de cet auditoire, mais on est donc là aussi dans des usages différents de la bibliothèque. On propose donc au lecteur une nouvelle lecture, puisqu'on est toujours dans la lecture du monde contemporain. Ce qui permet aussi de réengager la bibliothèque dans un processus vivant, actualisé, capable de se transformer en fait et de réagir à l'actualité. En faisant cette proposition, la bibliothèque s'inscrit comme un espace de formation, et c'est une chose qui, pour nous, a été très importante lorsque le service études et recherches de la BPI a mené une enquête sur le public des manifestations orales. En travaillant sur la programmation des années 2008-2009, donc il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça, de voir à quel point le public était sensible à cette proposition de formation qui lui était faite par le biais des débats, par le biais des conférences, par le biais des ateliers également, ce qui permettait pour nous-mêmes, professionnels, de reconsidérer notre espace de travail comme un espace de vraiment... de 1000 possibilités de formation au public, et donc redonne à notre activité une nouvelle dimension. Les motivations en fait des personnes qui ont été interrogées à l'intérieur de cette enquête étaient très claires. En fait, il y a vraiment cette idée qui a été affirmée et analysée par le service études et recherches de participants, en fait, de public, qui développent des stratégies nouvelles pour s'approprier les savoirs par le biais des manifestations, que ce soit des manifestations orales ou des expositions d'ailleurs, qui viennent, en fait, ces stratégies venant développer très souvent des terrains d'études ou de formation personnelle ou professionnelle préexistants. Beaucoup d'auditeurs à nos manifestations, de participants, qui viennent trouver, lorsqu'ils assistent à un débat, à un cycle sur des questions de société, par exemple, sur la justice, sur le multiculturalisme, un complément à leur propre terrain de recherche ou à leurs propres interrogations professionnelles. Donc, dans tous les cas, de toute façon, avec aussi cette sensibilité qui était affirmée dans cette enquête, qui est disponible sur le site de la BPI, cette sensibilité qui était affirmée d'une part à l'unicité de l'événement, mais aussi à la mise en scène qui était faite de ce déroulement des savoirs, avec un personnage clé qui était le modérateur, l'animateur, qui propose au public un contenu synthétique de connaissances qui va permettre à la personne qui le reçoit et qui y participe de développer cette fameuse stratégie en fait, de savoir, exploratoire des savoirs. Donc dans tous les cas, l'objectif est bien de développer une stratégie d'acquisition et d'approfondissement du champ des connaissances dans un temps relativement serré et avec la plus grande efficacité. Par exemple, si on interroge la programmation de la bibliothèque de la BPI, mais de manière, on va dire, anecdotique, la programmation a permis d'inviter le public à s'interroger l'année dernière sur le vocabulaire économique avec le cycle mot d'économie, sur l'univers spatial, sur les questions de genre et de sexualité à travers plusieurs colloques, sur la fascination pour les serial killers, sur l'actualité éditoriale, bien évidemment. Elle a permis de mettre à l'honneur des portraits de grandes figures comme Nabokov, Claude Simon, comme John Cage, comme Jacques Roubaud, par exemple. Elle a permis de donner état, en fait, elle a proposé des rendez-vous autour des cultures numériques et de la manière dont l'espace numérique modifiait nos pratiques sociales et notre perception sociale. Elle a permis de rencontrer des auteurs, évidemment, des auteurs vivants qui disent que la littérature est vivante et la création aussi, et qui mettent en fait en relation la littérature avec les autres arts. Elle a permis d'accompagner les lecteurs qui préparaient le bac dans leur révision, en proposant un cycle qui s'appelle Objectif Bac, qui donne des rendez-vous comme ça en littérature, en philosophie, en géographie, qui donne des rendez-vous aux étudiants et aux lycéens, donc, pour retravailler ou revisiter le programme scolaire, et puis faire la passerelle, en fait, avec le programme universitaire. Et puis, elle permettra, en 2014, elle l'a déjà bien amorcé, de s'interroger sur le multiculturalisme, sur l'écophilosophie, sur l'économie collaborative, avec bien évidemment des temps forts, une programmation de cinéma, documentaire que vous connaissez, des masterclass également qui permettent de renouveler les formes, là aussi, de médiation et de relations au public. Et donc, toutes ces propositions, il faut les voir comme un nouveau service qui est proposé au public et qui est organisé autour de la production de contenu. Tout ceci prend un nouveau sens si on envisage l'éphémère comme des tentatives renouvelées et réitérées de produire une collection. Et pour ça, bien évidemment, il faut se donner les moyens de collecter, d'archiver, de conserver les traces de ces manifestations où se produit du sens, et les moyens de les inventorier, bien évidemment, de les classer, de leur donner un nouveau sens et de les reverser à l'intérieur de la collection documentaire de la bibliothèque. On a donc là un service qui est envisagé d'une manière totalement nouvelle. L'éphémère se retourne pour devenir lui-même une collection et prend un sens nouveau en s'inscrivant lui aussi dans la durée et dans l'approfondissement, dans l'intermédiation. On parle bien d'intertextualité à l'intérieur des bibliothèques. Les événements ne sont plus là considérés comme une simple juxtaposition, irréfléchie, insaisissable, vouée à disparaître, mais s'inscrivent dans un dialogue avec d'autres événements ou d'autres collections qu'ils viennent compléter, qu'ils viennent enrichir et qu'ils viennent éclairer. Donc la constitution de cette mémoire, en fait, notamment par la conservation et la diffusion de son activité culturelle, est un des éléments essentiels de la bibliothèque en tant qu'établissement culturel. Donc, elle permet de toucher un public à distance, un nouveau public, et les chiffres en attestent. Il y a des personnes qui viennent aux manifestations, il y a des personnes qui consultent les manifestations qui sont les fichiers numériques et les traces de ces manifestations qui sont mises à disposition du public sur le site de la BPI, par exemple, et dans le catalogue de la bibliothèque. Et puis, elle permet à la bibliothèque de prendre place comme une institution qui produit des savoirs aux côtés d'autres institutions culturelles et médiatiques, les télévisions, les radios, les universités. On sait la révolution qui est en marche actuellement dans les universités avec cette production numérique de savoir qui est offerte à un public à distance. Et on peut rêver donc d'un nouveau rôle, ou en tout cas interroger le nouveau rôle de la bibliothèque comme un lieu aussi de pédagogie sur place et à distance. Donc on part, le mouvement, la boucle est bouclée. On était parti des collections qu'on utilise pour produire des événements. On revient aux collections en valorisant cette production d'éphémères et rejaillissent alors bien évidemment toutes les problématiques qui sont liées à la collection dont on a parlé ce matin. Comment la valoriser, comment la structurer, comment la mettre en avant et la rendre accessible. Donc les bibliothèques ont encore fort à faire avec la collection. Ainsi donc, si on est dans cette perspective de constitution d'une mémoire d'action culturelle, on peut considérer cette activité comme d'une manière différente, avec un autre regard, et voir de quelle sorte elle peut participer au développement documentaire et au développement de la bibliothèque. Voilà, là, concernant l'action culturelle, les choses ont été présentées. En fait, la question fondamentale est de savoir si, par les différentes propositions qui sont faites, en termes d'action culturelle et puis en termes de services, la question est de savoir, en fait, quelle identité prend la bibliothèque si elle se dirige, en fait, vers des formes d'hybridité. Voilà, est-ce que la bibliothèque est soluble dans l'hybride, ou est-ce qu'elle va constituer une nouvelle identité qui va être celle d'une collection encore plus diversifiée que la révolution qu'elle a subie lorsqu'elle a aussi intégré de nouveaux supports autres que le livre ? Quel rôle pédagogique la bibliothèque peut-elle tenir et doit-elle le tenir ? Et puis, quelle direction pour nous, pour nos métiers lorsqu'on organise ces nouveaux services, joue-t-on encore pleinement notre rôle de bibliothécaire? Je pense que chacun ici peut répondre personnellement pour lui-même, bien évidemment, mais aussi collectivement, en fait, pour voir quel avenir, en fait, se dessine pour la bibliothèque, si elle veut, bien évidemment, pouvoir surmonter les évolutions qui, elles, lui préexistent à nos métiers.
Merci. Je passe le micro à la salle pour des questions à nos invités et éventuellement je compléterai ce qu'a dit Emmanuel en deux mots sur un projet que nous menons actuellement à la BPI.
Bonjour, j'avais une question pour Sylvie Tomolillo sur le point G. Vous n'avez pas parlé de la généalogie de la création de ce centre, et moi j'avais des petites questions, sachant ce qui s'est passé notamment les derniers mois. Voilà. Est-ce que c'était une volonté politique? Est-ce que c'était une volonté de la direction de la bibliothèque? Est-ce que vous avez des craintes dans le cas d'un changement de mandature? Alors bon, je vais vous demander peut-être de... Vous pouvez aussi refuser de répondre si ça piétine le devoir de réserve.
Ce que vous venez juste de dire, là, je ne l'ai pas entendu, en fait. Juste, La question, c'était, est-ce que c'est une volonté politique? Après, vous avez ajusté quelque chose.
Et est-ce que vous avez des craintes dans le cas d'un changement de mandature, de coloration politique? Et voilà, comment vous vous positionnez dans le sens où il y a un pseudo devoir de neutralité qui s'exerce pour les fonctionnaires, mais qui est hypothétique pour les collections, où on ne peut pas être neutre. Donc voilà.
Alors, pour la première partie de la réponse, en fait, quelque part, je ne peux pas vous répondre dans la mesure où je n'étais pas là. Voilà. Donc, c'est Patrick Bazin qui va vous répondre.
Je suis heureux que les questions soient posées parce que je voulais faire semblant de poser une question pour justement compléter. Parce que c'est intéressant, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit, puisqu'effectivement, vous ne l'avez pas vraiment vécu, et puis comme j'étais là, vous vouliez peut-être pas éventuellement dire des choses qui n'auraient peut-être pas été complètement en phase. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Bon, le départ n'était pas une volonté politique, hein, du tout. Hein. La bibliothèque de Lyon a une longue tradition d'indépendance par rapport au pouvoir politique. Je n'ai jamais accepté, tant que j'ai été directeur, et c'était vrai de mes prédécesseurs, de servir la soupe, si je puis dire, aux élus lyonnais, quel que soit leur bord. Hein. Par contre, et on retrouve quand même un petit peu la politique, et on retrouve le débat hein, sur qu'est-ce qu'une collection, qu'est-ce que l'avenir des bibliothèques, qu'est-ce que l'universel dans les bibliothèques à travers les collections, qu'est-ce que le particulier, la communauté, le lien à la population, etc. Il se trouve que le point G n'est pas tombé du ciel. Hein. Ce n'est pas Patrick Bazin, un beau matin, qui, pour faire joli, a décidé de créer quelque chose autour du genre parce que c'était à la mode. Hein. En fait, il se trouve que nous avions parmi nous, en quelque sorte, parmi nos lecteurs, disons-le très, très clairement, un lecteur, un usager de la bibliothèque, qui par ailleurs était un partenaire très très fort de la bibliothèque, un peu comme les partenaires de Gallica avant la lettre, je dirais avant le numérique, c'était quelqu'un qui physiquement, si je puis dire, apportait sa contribution. Et en particulier, alors ça c'est une autre histoire extrêmement intéressante, je ne vais pas trop allonger le propos, mais c'est quelqu'un qui était collectionneur, qui est collectionneur de livres anciens ou de documents divers et variés, ayant un rapport avec Lyon et avec différentes thématiques, dont d'ailleurs les thématiques justement du genre. Et ce collectionneur a non seulement déposé, parce qu'il est toujours vivant, a déposé ses collections à la bibliothèque, mais nous l'avons inclus, intégré dans le processus même, non seulement d'acquisition, mais de traitement documentaire de ses collections. Lui et des personnes qui font partie de son réseau, en quelque sorte. Donc, ce dont on parlait à travers Gallica, et qui est très à la mode aujourd'hui, cette participation des lecteurs, je dirais qu'à la Bibliothèque de Lyon, depuis longtemps, mais avec des outils tout à fait humains et matériels, nous avons pratiqué ce genre de sport, hein, que de participer, en quelque sorte, et de faire participer le public. Cette personne m'a demandé s'il pouvait organiser les assises de la mémoire gay à l'ABM de Lyon. J'ai accepté, ça m'a paru intéressant, être un sujet tout à fait passionnant. Et de fil en aiguille, m'est venue l'idée de créer un centre de documentation, de ressources plus précisément, un centre de ressources sur cette thématique. Mais, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette personne, il y avait des réseaux. Comme dans beaucoup de villes, j'imagine. Enfin, Lyon est une ville qui a une grande tradition, dans beaucoup de domaines, je dirais, relevant du sociétal. C'est une des grandes, grandes constantes de l'histoire de cette ville. Pour le meilleur et pour le pire, du côté de la droite, du côté de la gauche, bref, il y a une grande tradition d'implication de groupes, de communautés dans l'évolution de cette cité, de cette ville. Bon. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant de créer ce centre parce qu'il y a un public potentiel et participatif potentiel, mais en même temps, c'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas que la bibliothèque de Lyon tombe dans le communautarisme. Hein, à l'américaine, comme on le voit, les bibliothèques de San Francisco, où vous avez une juxtaposition de bibliothèques dans la bibliothèque portée par différents segments de la population. Donc on était vraiment confrontés à Lyon par notre volonté, je dirais par ma volonté en fait, hein, qui n'était pas du tout celle du maire de Lyon, de jouer cela. Ça m'intéressait de confronter la bibliothèque à cette articulation entre l'universel et le particulier, hein, le rôle généraliste et universel d'une bibliothèque, ce qu'a fort bien dit Sylvie Tomolillo, nous sommes là pour tout le monde, et nous avons à dégager du sens commun, du commun, comme on dit aujourd'hui, mais en même temps, il faut tenir compte de la réalité et du public qu'on a. Donc, nous avons eu l'idée de créer ce centre de ressources, et soyons très concrets, la question de savoir qui allait s'en occuper s'est posée. Alors, j'ai obtenu de la ville de Lyon un poste ou un mi-temps, je ne sais plus, un mi-temps, bon, bref, dans un premier temps, enfin bref, vous êtes toujours à mi-temps, d'accord. Donc j'ai quand même obtenu un poste, enfin un demi-poste, pardon, et pour le recrutement, j'ai été soumis, enfin l'ABM a été soumis à la pression de certains milieux, hein, de milieux, disons, communautaires, hein, qui constitué de personnes tout à fait respectables. Là n'était pas la question, mais avec cette idée qu'il devait y avoir une confusion entre la constitution d'une collection et la défense des intérêts sociétaux de cette communauté. Et ça, je ne le voulais pas, tout en étant intéressé, titillé, je dirais, hein, par l'idée d'impliquer quand même des personnes appartenant à cette communauté. Vous voyez un peu à la fois la difficulté et l'intérêt de la chose. Et c'est comme cela que, en fait, excusez-moi, je suis un peu long, mais j'ai recruté Sylvie Tomolillo, qui était venue me voir parce qu'elle voulait travailler à la bibliothèque de Lyon. Nous avions longuement discuté. Moi, j'aime bien échanger, voir tout ça, ce que les gens portent et tout, leurs idées et tout et tout. Et puis, j'avais bien perçu que cette thématique l'intéressait et qu'elle était impliquée, disons-le, à titre citoyen. Hein, disons cela, pas communautaire, mais citoyen, pour la défense de certains droits, à l'égalité. Et donc, elle était intéressée par ce. Et le jour où j'ai pu mettre en place ce centre, eh bien, j'ai fait appel à elle. Alors, il y a eu un jury de recrutement, hein, interne à la bibliothèque, mais nous avons fait un appel à candidature, et je me suis retrouvé avec des candidats, dont certains était partie prenante de ces différentes communautés. Et le choix s'est porté sur la personne qui nous a semblé, qui était, de fait, d'ailleurs l'expérience l'a montré, à la fois qui était dans l'entre-deux, qui connaissait les réseaux, qui connaissait la réalité, et ça c'est très important, connaître les contenus. Moi c'est un leitmotiv pour moi. Hein. Je veux dire, les bibliothécaires, le fond du problème, c'est les contenus. Un bibliothécaire qui ne s'intéresse, alors on ne peut pas s'intéresser à tout, mais un bibliothécaire qui n'aime pas les contenus, je dirais, quels qu'ils soient, qui n'a pas une vibration intellectuelle, culturelle, il ne peut pas être bibliothécaire. Donc c'était important de recruter quelqu'un comme elle, parce qu'elle connaissait de l'intérieur le sujet, mais en même temps, elle avait une approche scientifique, anthropologique, hein, de par son cursus, et puis une volonté de devenir documentaliste, hein, d'apprendre des techniques documentaires. Vous parliez de Bertrand Calange, qui a travaillé à l'époque, il était encore à la BM de Lyon, et on a travaillé avec lui, enfin lui avec vous, sur la classification, etc. Donc il y a eu un gros travail de réflexion documentaire, mais qui est très intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension politique. Alors la ville aurait pu ne pas créer le poste. C'est vrai. En disant, attention, c'est vrai. Donc je ne sais pas, en clair, si la couleur politique ou je ne sais pas, si les choses évoluaient de façon très très forte à Lyon, je ne sais pas ce qui se passerait. Mais en tout cas, ça n'a pas été une demande de la ville, au départ.
Et Sylvie, vous avez un complément à apporter dans la deuxième partie de la question ?
Oh, peut-être juste, mais je ne sais pas, ça pourrait alimenter tout un débat sur la question de la neutralité. C'est quoi la neutralité ? Vous parlez d'une neutralité quoi ? Sexuel, pour le coup, c'est quoi ?
Enfin voilà, ça vient aussi d'une expérience personnelle, mais c'est que dès qu'on commence à parler du genre, de la sexualité, on rentre tout de suite dans le terrain du politique pour peu qu'ils s'investissent dans ce domaine-là les derniers mois. Et là, les lignes se brouillent très rapidement. Et par exemple, on peut se poser la question d'acheter ne serait-ce qu'un livre de Judith Butler sur la question des genres en se disant quelles vont être les répercussions. Quoi. Voilà, alors, c'était un peu l'idée.
Pour tout vous dire, en fait, là, on parle de choses. Le centre a été créé il y a 7 ans. Il n'y a personne. Personne ne savait ce que c'était que le genre. Personne ne comprenait ce que c'était.
Il y a eu, je crois, à Paris, mais là je parle sous le contrôle des Parisiens, hein, il y a eu une tentative ou une volonté de créer la même chose en fait à Paris. Et ça a échoué, que je sache, pour des raisons politiques justement. La tradition lyonnaise n'est pas du tout celle-là. Alors il est vrai que s'il y avait eu, mais c'est pas vraiment le débat, là je m'égare, s'il y avait eu, je sais pas moi, une municipalité Front National, le directeur de bibliothèque que je suis, je ne sais pas, j'aurais fait certainement différemment. Hein. Il est vrai que connaissant l'histoire de la ville et la sensibilité de cette ville, une certaine forme d'équilibre, un équilibre entre différentes visions, différentes sensibilités, ça s'est vraiment très, très fortement inscrit dans cette ville, je sentais que c'était jouable. Mais en tout cas, par rapport au débat politique, moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas soumettre les fameuses chartes d'acquisition aux villes. Moi, je suis contre le fait de faire sanctionner une politique culturelle de bibliothèque par une ville. La ville n'a qu'à recruter des vrais professionnels et à leur faire confiance. Et puis, s'il y a des dérives, a posteriori, elle agit. Mais là, nous avons le devoir de défendre notre professionnalisme. Hein.
D'autres questions ?
Moi, j'avais une question pour Louis sur la réutilisation des contenus de Gallica. On a vu que c'était majoritairement des images. Donc, qu'est-ce que ça recompose par rapport à la collection ? Enfin, si je me trompe éventuellement. Et qu'est-ce que font les Gallica Notes des contenus textuels ?
On a, alors c'est, les exemples que je vous ai montrés sont majoritairement des images, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas des proportions aussi importantes que... sur le site même, où très majoritairement ce sont des contenus textuels qui sont consultés, on a une part plus importante de réutilisation d'images. Mais pour autant, ça n'empêche pas la réutilisation de texte. On en retrouve beaucoup. Là, je vous ai montré les réutilisations les plus faciles à repérer, qui sont les réutilisations au sein des blogs, donc des réutilisations la plupart du temps illustratives. Ça peut être du texte via le lecteur exportable, hein, on a très régulièrement du texte. On signale aussi, sauf qu'on ne peut pas le mettre en valeur en termes d'image, mais on signale sur Twitter toutes les réutilisations qui sont faites des contenus texte sur les forums de discussion, et il y en a beaucoup. Un des forums emblématiques qui a donné lieu à une enquête de la direction de la stratégie, c'est le forum page 14-18, qui est, si vous tapez guerre 14-18, c'est un des premiers résultats qui va sortir hein, sur Google en ce moment, et... les participants à ce forum utilisent de manière massive des documents de Gallica autour de la guerre de 14.
S'il n'y a pas d'autres questions, avant de céder la parole à Patrick Bazin pour son intervention, retour à la collection, point d'interrogation, dans quelques minutes, je voulais vous donner rendez-vous cet été pour la sortie d'un produit BPI qui s'appellera le Web Magazine, dont le nom est Balise, qui est la mise en application des principes que nous venons d'énoncer précédemment, c'est-à-dire du rôle du bibliothécaire comme médiateur et non pas comme journaliste, même si le mot Web Magazine pourrait le faire penser. Donc la refonte du site web de la BPI qui aura lieu au cours de l'été, en trois nouveaux sites, un site institutionnel, un site professionnel et un site complètement dédié à la mise en valeur des ressources de la bibliothèque et l'autre ressource du web autour de production de contenu dit intermédiaire, donc un web magazine. Je me suis posé la question de savoir si on pouvait vous montrer aujourd'hui des maquettes des pages de titres, mais en fait c'est encore un peu vert pour le faire. Mais donc, j'attire votre attention et votre vigilance pour poursuivre ça. Et vous comprendrez mieux l'optique qui a été prise depuis quelques années à la BPI d'un travail autour des contenus et pour aboutir à une mise en valeur non seulement plus évidente dans les espaces de la bibliothèque. Si vous avez le temps de vous y faire un tour, vous verrez à quel point, par rapport à quelques années, on peut voir beaucoup plus de livres de face, des nouveautés, des présentations thématiques. Et donc le pendant en ligne de cette même volonté de valoriser les contenus, vous en trouverez la traduction donc prochainement sur le magazine, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions pour en parler. Voilà. Donc sans attendre, je cède la parole à Patrick Bazin pour son intervention. Retour à la collection, ce sera un mot de la fin, une conclusion en même temps.